Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série « Ayez confiance ». Et le titre de l'étude numéro 9 sera « Comment faire face au chagrin ». Tôt ou tard, chacun d'entre nous doit faire face au chagrin. Ou si vous voulez, tôt ou tard, le chagrin croisera notre route. Pourquoi une étude sur le succès et le bonheur doit-il contenir un chapitre traitant de la technique de faire face au chagrin? La réponse évidente est que le chagrin ne peut être mis de côté. Le chagrin est un grand choc et son effet sur une personne d'une façon ou d'une autre est profond, très profond, vous pouvez me croire. Il peut grandir ou raffiner une personne ou il peut rendre le cerveau nébuleux et l'esprit embrumé. Il y a de quoi. Il peut dissiper l'enthousiasme et détruire la motivation. En un mot, on doit savoir comment faire face au chagrin, comment faire preuve de courage et continuer. Qu'est-ce qu'une personne chagrinée peut saisir qui préservera les valeurs de sa vie? Un fameux correspondant de guerre a écrit une histoire émouvante de sa marche sur les plages de la Normandie à la fin de l'après-midi du fameux jour Ij. Sur le sable étaient éparpillés les effets personnels des jeunes soldats américains qui, tôt ce matin-là, avait débarqué pour une invasion historique mondiale. Il y avait répandu un peu partout de petits porte-bonheurs personnels, des photos, des livres et des lettres. À côté du corps d'un garçon, il trouva une guitare et à côté d'un autre, une raquette de tennis. Une pensée touchante de jeunes Américains allant, on peut bien le dire, à la bataille, à la terrible bataille, où la plupart allaient malheureusement payer de leur vie. Exact comme des touristes, on peut dire, exactement comme des touristes. Comme en temps de paix, il y en avait qui ont emporté avec eux des raquettes de tennis, des guitares, des croix, des lettres, etc. À côté d'un jeune homme, il a vu à moitié enfouie dans le sable une Bible. Ernie, c'est comme ça que nous l'appellerons, ramassa la Bible, marcha un demi-kilomètre avec elle, et puis retourna sur ses pas et la reposa là où il l'avait trouvée. « Je ne sais pas pourquoi je l'ai ramassée, dit-il, ou pourquoi je l'ai remise à sa place. Peut-être, pensait-il très vaguement, qu'il pourrait l'envoyer aux parents du jeune homme pour les consoler. » Peut-être remit-il la Bible à l'endroit où il l'avait trouvée parce que il sentait confusément que le garçon était mort dans cette foi, dans le Saint-Livre, et que ce Saint-Livre devait demeurer avec lui pour toujours. Tout cela donne à réfléchir. Quelle que soit ces raisons, l'incident suggère que dans les questions solennelles de la vie et de la mort, il n'y a qu'un livre contenant les réponses qui satisfont nos esprits et qui dispensent la compréhension et la consolation. Les gens remportent une grande victoire sur le chagrin avec l'aide, surtout l'aide de leur foi. La femme d'un homme d'affaires était morte et cet homme d'affaires était dans une profonde douleur. Dans sa maison, il y avait tout ce que la richesse peut dispenser de beauté et de charme. Des tapis coûteux recouvraient le plancher. Des peintures esquisses tapissaient les murs. Mais à quoi bon tout cela? Une épouse aimée était donc partie. Et un homme, un chef solide dans le monde des affaires, était accablé par une douleur qu'il avait de la peine à maîtriser. Ce qu'il raconte dans l'amitié intime de cette heure de chagrin était vraiment impressionnant. Voyez-vous, c'était un homme d'un air assez austère, avec aucune évidence extérieure de sentiments dans sa nature, un homme d'affaires typiquement agressif et efficace, de ceux qui imposent le respect et qui dominent. Mais à l'intérieur de sa maison, là, c'était différent. Il était dépendant, comptant uniquement sur sa femme, qui avait été presque une mère pour lui. Il était timide en société et il préférait de beaucoup demeurer à la maison calmement le soir et lire. Sa femme tricotant ou lisant de l'autre côté de la table. Comme beaucoup d'hommes d'un type similaire, il était un garçon qui n'avait jamais tout à fait grandi, mais qui présentait une apparence de force devant le monde. J'ai découvert quelque chose dans la foi chrétienne que je n'ai jamais ressenti auparavant, dit-il tranquillement. Car hier soir, je me suis agenouillé à côté de mon lit, comme d'habitude pour prier. J'ai fait cela chaque soir depuis que j'étais tout petit. Lorsque je me suis marié, il y a de cela 40 ans, ma femme et moi, nous nous sommes entendus pour prier ensemble chaque soir. Nous nous mettions à genoux à côté du lit et elle priait à haute voix. Je ne pouvais faire cela, mais de toute façon, elle était bien meilleure à cela. Et j'ai toujours senti que Dieu l'écouterait. Plutôt timidement, il raconta qu'il tenait la main de sa femme pendant qu'elle priait. Il était comme, on peut dire, ils étaient comme deux enfants au cœur tout simple. Dieu devait les regarder avec délice, à en juger à la façon dont il les bénit. Eh bien, poursuivit-il, nous avons fait cela pendant toutes ces années et puis Dieu l'a emporté. Et hier soir, je me suis agenouillé seul. Selon ma longue habitude, j'ai tendu ma main vers la sienne. Mais voilà, elle n'était plus là. Et là, j'ai réalisé combien elle me manquait et combien je l'aimais et j'avais besoin d'elle, à un point tel que je pouvais à peine le supporter. Je me suis senti comme il y a longtemps, alors que j'étais un enfant, que j'avais peur et que je voulais voir ma mère. J'ai posé ma main et ma tête sur le lit et je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment prié. J'ai dit « Oh Seigneur, j'ai entendu parler de gens qui vous trouvent vraiment et qui croient que vous aidez vraiment les gens. Vous savez combien j'ai besoin de vous maintenant, plus que jamais. Je mets ma vie entre vos mains. Aidez-moi, Seigneur. » Ses yeux étaient remplis d'émerveillement lorsqu'il dit « Eh bien, savez-vous ce qui m'est arrivé ?» Et ces mots, il les disait lentement. Soudain, j'ai senti un toucher sur ma main, la main qu'elle a toujours tenue. C'était un toucher fort, bon, et il m'a semblé qu'une grande main prenait la mienne. Surpris, j'ai levé les yeux, mais bien sûr, je n'ai vu personne. Cependant, toute la douleur sembla quitter mon esprit et mon corps, et la paix s'installa dans mon cœur. Je savais que Dieu était avec moi et ne me laisserait jamais, et qu'elle est ma bien-aimée également avec moi. Ainsi conclut-il avec la détermination dans sa voix. Voyez-vous, cet homme avait découvert un fait fondamental enseigné par le christianisme. Ce fait est que ce qui semble être la mort n'est pas la mort du tout. Apparemment, Jésus-Christ ne voyait pas la mort comme nous la voyons, se tenant à côté du corps d'une petite fille. Il disait « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Lorsque il a vu la famille qui était terriblement affligée de Lazare, il les informa ainsi. « Votre ami Lazare dort, mais je peux le réveiller de son sommeil. Il semblerait que la mort pour Jésus-Christ est une condition, carrément une condition de sommeil, en quelque sorte. Dans son enseignement, la mort immédiate est quelque chose de plus sinistre que la mort physique. Il enseigne que le corps est seulement la résidence temporaire d'une âme et d'un esprit éternel. Apparemment, la mort dans l'esprit de Jésus-Christ signifie mort de l'âme, c'est-à-dire pour l'âme. Or, historiquement, à mesure que les civilisations deviennent païennes, elles ont tendance à mettre de plus en plus l'emphase sur le corps comme la seule valeur ultime. L'enseignement du christianisme, cependant, est « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. » Je répète, la Bible dit « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. » Dans sa pensée, ce que nous appelons la mort n'affecte en aucun cas la continuité de la vie de l'individu. le Nouveau Testament contient un magnifique passage qui décrit l'état de nos êtres chers décédés. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse chapitre 7, versets 16 et 17. Voilà l'un des passages les plus réconfortants jamais écrits. Ils ne souffriront plus de la faim. Quelle faim? Est-ce la faim du corps? Est-ce la faim mentale ou spirituelle? Quelle qu'elle soit, ils n'auront plus faim, mais ils seront rassasiés. Ils n'auront plus soif non plus. La soif est peut-être une description encore plus poignante que la faim, car elle provoque une angoisse beaucoup plus profonde lorsqu'elle est vécue. Le passage indique également que leur vie sera si remplie et si belle qu'elle peut seulement être décrite par le charme des fontaines d'eau vive. Et toutes les larmes seront effacées de leurs yeux. Alléluia, gloire à Dieu. Une infirmière d'expérience a dit « Cela m'a toujours semblé une tragédie majeure de voir tant de gens traverser la vie hantée par la crainte de la mort pour découvrir, lorsqu'elle vient, qu'elle est aussi naturelle que la vie elle-même. Car bien peu de gens ont peur de mourir lorsqu'ils arrivent à la toute fin de leur vie. Dans toute mon expérience, j'ai connu une personne qui semblait ressentir de la terreur avant de mourir. C'était une femme qui avait fait beaucoup de mal à sa sœur, mais qu'il était maintenant trop tard pour corriger. Quelque chose d'étrange et de très beau arrive aux femmes et aux hommes lorsqu'ils parviennent au bout de la route. Toute crainte, toute horreur disparaît. J'ai souvent observé un regard émerveillé, ou si vous voulez, d'émerveillement heureux, poindre dans leurs yeux lorsqu'ils ont réalisé que cela était vraiment vrai. Tout cela fait partie de la bonté de la nature et je crois de la bonté illimitée de Dieu notre Père. Ne vous accrochez pas à vos êtres chers dans votre pensée. Libérez-les. Laissez-les aller. Vous ne les perdez pas en faisant cela. Vous les gênez avec vos pensées douloureuses, sombres et tristes. Ils ont mérité la joie et le délice qu'ils expérimentent maintenant. Ne leur gâchez pas cela. Un pasteur d'une paroisse, d'un village, disait ceci. J'ai visité un petit cimetière de campagne à l'ancienne mode, et cela un jour d'hiver avec un ami. cet homme avait réussi d'une façon extraordinaire dans la vie, mais il me raconta que lorsque sa mère mourut, il avait eu le sentiment que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Il ne se maria que beaucoup plus tard dans sa vie et il avait passé les années précédentes dans une grande dévotion pour sa maman. Ses expériences les plus heureuses ne consistaient pas à atteindre une ambition recherchée, mais à goûter le plaisir de rentrer chez lui et de les raconter à sa mère. Lorsqu'elle mourut, cela n'était plus possible, et il raconte que la vie sembla perdre totalement son sens. Il n'avait absolument plus de raison de travailler. Il était en quelque sorte amer, recherchant constamment sa mère dans ses pensées et refusant l'idée qu'elle avait quitté. Cet homme raconte, quand il avait 17 ans, à la veille du jour où je devais partir pour le collège, ma maman m'amena dans sa chambre et, soulevant le matelas, en retira 4 billets froissés. Je les ai économisés pour toi, mon fils, dit-elle. Prends-les. Va à l'université. Travaille fort et deviens un homme bien, un homme extraordinaire. Il dit, je n'oublierai jamais ces billets froissés entre ses petites mains et j'ai remarqué à quel point ses mains étaient usées et cela m'a touché tellement que j'ai pleuré amèrement. Alors lorsque elle mourut, je ne voulais plus vivre du tout. Mais un jour, je me tenais dans ce cimetière et je jetais un regard sur les vieilles collines familières coiffées de neige. Tout était très paisible et la beauté crue du monde sous le soleil froid de l'hiver me donna une sensation d'éternité. Je priais, utilisant les mêmes mots que ma mère utilisait. Tout à coup, je ressentis un sentiment particulier de paix et de calme intérieur. Une pensée me vint qui ne m'aurait jamais effleuré, jamais. Avant, ça m'aurait effleuré l'esprit. Je n'étais pas juste, vraiment pas très correct avec ma mère. Elle avait travaillé très fort. Et maintenant, pour la première fois, elle était libérée, libérée du labeur et de la peine. Toute sa vie, elle avait lu au sujet du ciel, dans sa Sainte Bible. Je peux encore l'entendre chanter. Il est une terre de pures délices. Elle était l'une de ces chrétiennes simples pour qui la terre était une préparation pour le ciel et je ne lui permettais pas de jouir de ce ciel pour lequel elle avait pourtant tellement travaillé et peiné, et dont elle avait rêvé. Alors là, debout, dans ce petit cimetière, j'ai dit à voix haute, « Mère, maman, je vais vous laisser aller. Oui, soyez enfin heureuse, car vous avez mérité cette joie. Aussitôt que j'ai eu dit cela, j'ai goûté la paix incroyable dans mon cœur. C'était enfin comme si ma maman se tenait vraiment à côté de moi et qu'elle me disait « Merci mon fils, tu comprends maintenant. Je t'attendrai mon fils et je te raconterai de l'autre côté de la rivière tout ce qui est merveilleux et là je te rencontrerai. » Et en attendant, mon esprit sera souvent près de toi. Chers amis, il y a un désenchantement naturel en ce qui concerne l'état de la condition de nos êtres chers lorsqu'ils ont quitté cette vie. Nous n'avons aucune information exacte, mais il y a des raisons suffisantes de croire que nos êtres chers qui sont morts dans la foi sont entre les mains bienfaisantes de Dieu le Père. Cela doit être un endroit merveilleux, là où ils sont allés. Nous ne savons rien à ce sujet, bien sûr, mais nous avons des indications. Lorsque ce grand homme des sciences naturelles, Thomas A. Edison, allait mourir, on remarqua qu'il tentait de transmettre un message. Et son médecin, se penchant vers lui, entendit M. Edison dire faiblement, mais distinctement, « Oh, si vous saviez comme c'est beau, c'est très beau ici !» Un missionnaire raconta le temps qu'il avait passé avec un homme mourant. La famille réunie dans sa chambre crut qu'il devait faire bien noir pour traverser la vallée toute seule. Alors, on avait allumé toutes les lumières de façon à ce que le mourant ne craigne pas d'aller dans le noir. Mais soudain, à minuit, il souleva la tête sur l'oreiller et avec un regard surpris, il dit « S'il vous plaît, éteignez les lumières. Ne voyez-vous pas que le soleil de l'éternité, un soleil inégalable, se lève maintenant ?» Le météorologue d'une certaine ville, il avait fait ce métier pendant 40 ans, et pendant 4 décades, il avait établi la carte de la température et il avait étudié les lois naturelles. Il était par instinct, par la pratique et par expérience, un esprit rationnel et scientifique. Il était aussi un homme d'une foi religieuse profonde. Son fils n'était pas une personne formellement croyante. Et lorsque le père vint à mourir, il se tourna soudainement vers son fils qui était assis à côté de son lit et il dit « Bill, je vois l'endroit le plus magnifique, le plus merveilleux qu'on puisse imaginer. C'est indescriptible. Et dans une fenêtre, il y avait une lumière pour moi. Une expression de grande paix et de bonheur. C'est vraiment reflété sur tout son visage. Et tout à coup, il ne dit plus rien. Lorsque le fils raconta cet incident, son pasteur lui demanda « Que croyez-vous que votre père a vu réellement ?» Sa réponse fut caractéristique de l'attitude scientifique du père et du fils. « Eh bien, voyez-vous ce que je pense que mon père a vu réellement ?» Il n'y a aucun doute là-dessus de ce qu'il a vu. Il n'a jamais rapporté rien qu'il n'avait vu, vérifié ou su. Donc, il a vu ce qu'il a dit qu'il a vu. Ça aurait pu être une hallucination ? Demanda le pasteur. Eh bien, pas du tout, du tout, répondit-il, car mon père n'avait pas l'esprit à avoir une hallucination. Il a vu quelque chose et l'a rapporté précisément comme il en avait l'habitude avec toutes les données, dit le fils. Donc, je suis absolument certain de ce qu'il a vu. Chers amis, nous devons puiser notre information concernant l'au-delà d'une seule source, entièrement fiable, la source qui a traversé l'épreuve du temps. À la question « Quel est l'état de nos êtres chers après cette vie ?» la Sainte Bible suggère cette réponse. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14, verset 13. Cela signifie, heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Il est difficile d'associer le bonheur et la mort. La mort pour nous est la tragédie ultime. Mais y a-t-il quelque chose dans les voies de Dieu qui puisse être une tragédie? Nous ne pouvons pas croire que Dieu, en transférant un homme d'une forme de vie à une autre, en ferait une tragédie. Un reporter de nouvelles a eu à subir une intervention chirurgicale sérieuse. Comme elle était pratiquée sous anesthésie locale, il possédait toutes ses facultés et il était capable de noter et d'enregistrer ses expériences. Il décida qu'il aborderait cette expérience comme un reporter en décrivant chaque étape. S'il devait revenir du seuil de la mort, il aurait une histoire fantastique à raconter. Il défaillit. Il en vint à un point où il ne voulait plus revenir. L'attirance se poursuivit. C'était un aspect si ravissant de paix et de beauté que chaque élément dans sa nature l'exhortait à s'y abandonner. Le médecin rapporta par la suite qu'il avait eu une période de défaillance. Alors, par un acte de volonté, dit-il, je dois revenir. Je dois revenir pour élever mes enfants. Et à regret, il revint à la vie normale, mais déclara qu'il ne craindrait plus jamais la mort. Le processus de la naissance donne une idée de la protection que nous pouvons expérimenter à la fin de la vie terrestre. Un enfant blotti sous le cœur de la mère dans les jours prénataux et entouré de chaleur et de protection. S'il pouvait raisonner, le bébé pourrait dire « Je ne veux pas naître, je ne veux pas quitter le monde où je suis pour cet autre, car je suis heureux ici, j'ai peur de la naissance. » Dans son existence prénatale, il peut entrevoir la naissance comme nous entrevoyons la mort, comme la fin d'une expérience certaine et le début d'une expérience incertaine. Et puis voilà qu'il naît, le visage le plus bienveillant et le plus doux au monde le regarde. Il est blotti dans les bras aimants de sa mère. Et là, il est soutenu et protégé, il est nourri et aimé. Dieu l'a voulu ainsi. Alors, après plusieurs années, lorsque un homme vient à mourir, a-t-il besoin d'être terrifié à l'idée de la mort, ou si vous préférez, d'une autre naissance? Doit-il craindre de passer de ce monde au suivant? Et s'il a eu de l'amour et de la protection lorsqu'il est venu sur cette terre au début, ne peut-il présumer qu'il aurait la même chose lorsqu'il entrera dans l'autre vie? Ne peut-on faire confiance au même Dieu pour s'occuper de nous dans la mort comme il l'a fait lors de notre naissance? Sa qualité d'amour changera-t-elle si rapidement? Cela ne lui ressemblerait surtout pas. Nous devrions apprendre à voir la mort comme une partie naturelle de notre expérience totale. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui comprit profondément cette fameuse vérité. Pardon. Elle était, cette femme, d'un âge déjà respectable. Elle dit « Pasteur, j'ai un problème difficile à vous soumettre. Trois des meilleurs médecins de New York m'ont dit que je devais subir une intervention chirurgicale sérieuse, pas plus tard que lundi matin, et que cette opération peut signifier ma mort. Les médecins me l'ont dit franchement parce que je leur ai demandé la vérité. » Elle avait cette qualité de la personnalité qui permet d'affronter la vérité, même une vérité brutale. Il y a environ un an, continua-t-elle, il y a environ un an, j'ai perdu mon fils à la guerre. Ensuite, elle dit, « Pasteur, je vous le demande, si je meurs à la suite de cette opération lundi, est-ce que je vais le revoir, mon fils? Dites-moi la vérité. » Elle regarda son pasteur carrément dans les yeux pour chercher intensément quelques hésitations, quelques doutes, ou s'il la regarda directement dans les yeux et lui dit « J'ai l'absolue conviction profonde qui est basée sur ce que je sais de Jésus-Christ que vous reverrez votre fils. » Combien de temps après ma mort, demanda-t-elle. J'aimerais pouvoir vous le dire, répondit le pasteur. Mais si votre fils était dans un pays étranger et que vous alliez le voir, vous vous mettriez à sa recherche aussitôt arrivé, non ? Et vous le trouverez. Cela ne peut être très long, car voyez-vous, l'amour ne peut jamais se perdre. Elle dit, j'ai un mari et une fille. Si je vis, je serai avec eux. Donc, si je meurs, je serai avec mon fils. Le pasteur dit, oui, vous êtes dans une position très enviable, car peu importe ce qui arrivera, vous avez encore toute votre famille. Dieu est très bon, dit-elle lentement. Et lorsque elle se leva pour partir, le pasteur la prit par la main et il n'a pas pu s'empêcher de dire « Sachez, chère madame, chère sœur en Christ, vous êtes l'une des personnalités les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées. » Calmement, rationnellement, simplement, elle se préparait à un grand voyage. Elle se rendit chez un photographe et fit prendre sa photo. Plus tard, le pasteur a vu ces photos et il y avait une lumière sur son visage incroyable. Ensuite, elle est allée voir son avocat et elle prit même les arrangements pour ses funérailles. Puis rapidement et paisiblement, elle se rendit à l'hôpital où elle se soumit à l'intervention chirurgicale. Malheureusement, en dépit des meilleurs talents de la science moderne, elle mourut. Aujourd'hui, je le crois, elle est à la fois avec son fils et avec les êtres qui lui sont chers. Mais rappelez-vous ceci, la mort ne gagne jamais. Écrivez dans les cieux, proclamez que tout homme peut entendre la grande et immuable foi qui s'élève au-dessus des clameurs de la bataille, au-dessus de la fumée et du tumulte de la douleur et de la souffrance. Oui, au-dessus de la mort elle-même, ainsi qu'il est dit dans les mots victorieux qui ont survécu au siècle, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Alléluia. Voici le fait que nous devons savoir. La vie remporte une victoire éternelle et glorieuse sur la mort. Pendant la dernière guerre, les aumôniers se rendaient avec les troupes jusqu'au front. Et ceci explique le haut taux d'accidents parmi les aumôniers, et on le comprend. Que ce soit des aumôniers catholiques, protestants ou juifs, tous étaient en danger avec les soldats durant la guerre. Quand un soldat était blessé et mourant sur le terrain, Le premier homme à se pencher sur lui était le plus souvent un aumônier. L'aumônier chrétien portait sur son casque une petite croix blanche, la croix du Christ. La première chose que les yeux du blessé voyaient était la croix blanche sur le casque juste au-dessus de lui. On imagine un soldat abattu, sentant la mort approcher. Peut-être est-il envahi par une terreur qu'il n'admettrait devant personne. Une vague de nostalgie et de solitude s'étend sur lui. Il donnerait n'importe quoi pour voir le visage de sa mère, de sa femme, ou le visage de sa petite amie, ou sentir le toucher des mains de ses petits-enfants. Il voudrait voir une fois de plus le soleil se coucher sur les vieilles collines de sa terre natale. Il voudrait voir le scintillement de la rivière Hudson, de l'Ohio ou du Mississippi. Mais tout cela est très, très loin et gravé toutefois dans son cœur. Il est en train de mourir loin de son foyer, loin de ces êtres qui lui sont si chers. Et voilà qu'un visage aimable se penche sur lui. Il voit la petite croix blanche sur le casque et quelque chose répond dans son cœur. Dieu est là. La foi l'a suivi. Le lien qui le rattache à l'Église est encore présent en les bras éternels. Ils sont là. Tout est là, au-dessous de lui. Puis l'aumônier, de toute la bonté de son cœur, met ses mains sous la tête du mourant, renvoie ses cheveux en arrière, comme sa mère elle-même l'aurait fait, et il dit « Mon fils, écoute bien, tu te rappelles ces mots merveilleux que ta maman t'a dit, n'est-ce pas que tu t'en rappelles? Alors crois, chaque mot, prends-le dans ton cœur et dans ton âme et dans ton esprit, car c'est la réalité. Crois-les de tout ton cœur. Et voilà les fameux mots. Il est dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Je répète, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Et le garçon écoute. Il écoute et il sent la paix envahir tout son âme, tout son être. Ses yeux deviennent nébuleux. La terre s'éloigne. Le visage devient pâle, la voix faiblit. Pendant un moment, il traverse une vallée. Et puis, presque aussi rapidement qu'on le dit, soudain, tout est clair autour de lui. Et il voit une lumière glorieuse et un rayonnement plus merveilleux que tout ce qu'il a jamais vu ou connu. Il regarde heureux et surpris. Il y a un visage au-dessus de lui, mais c'est un autre visage, un visage plus fort, plus aimable, même que l'autre visage qu'il voyait à travers sa douleur. Et à nouveau, il voit une croix. Mais cette fois, cette croix, elle brille dans une lumière inimaginable, inexplicable. Et il entend des mots comme un murmure musical, des mots tendres, des mots de triomphe et de foi. Et la voix qui les prononce est la voix qui les a formulées. Il y a très longtemps, je suis moi, ton Seigneur, la résurrection et la vie. Et la voix dit, vous l'avez trouvé maintenant, mon fils, vous l'avez trouvé. Je suis avec vous, ainsi que je l'ai dit. Et cet homme sur le côté terrestre de la rivière était mon représentant et il vous a indiqué le moyen de traverser la rivière. Et vous êtes maintenant ici avec moi et tout va bien pour vous. Chers amis, il n'est pas déraisonnable de croire que dans cet univers qui est à la fois matériel et spirituel, les êtres chers qui nous ont quittés ne sont pas vraiment loin de nous. De nombreuses personnes ont rapporté que lorsque ils s'y attendaient le moins, ils ont eu la sensation très nette de la présence immédiate d'êtres chers. Monsieur Edward White soutient que notre univers est un univers inobstrué. Cela signifie que ceux qui sont passés dans le monde spirituel vivent simplement dans une région de plus haute fréquence ou d'une fréquence différente de celle dans laquelle nous évoluons. Ils sont près de nous, mais nous ne pouvons pas les voir. L'homme a une nature psychique régie par des lois de l'univers spirituel. Ainsi, les intuitions, les aperçus, les appréhensions spirituelles ne sont pas anormales ou bizarres, mais sont des expériences normales. Elles sont des projections du monde spirituel qui correspond au nôtre. Lorsqu'elles surviennent, nous ne le savons pas, mais il est très dangereux d'affirmer de façon dogmatique qu'elles ne sont pas réelles. Le fait le plus probant est qu'elles représentent une réalité fondamentale de notre univers, c'est-à-dire l'indestructibilité de l'esprit et de l'âme, oui, l'immortalité de l'âme humaine. J'aimerais conclure cette étude en relatant une expérience avec une mère au cœur brisé. Peu de temps après la fin de la guerre, The American Magazine publia une lettre pathétique écrite par Madame Frank Douglas. Elle était d'Arkansas, dans laquelle elle racontait combien la mort de son fils à la bataille avait ébranlé sa foi. Je fus si ému par sa lettre que j'écrivis immédiatement une réponse non seulement à elle, mais à toutes les mères un peu partout qui avaient connu cette expérience, vraiment une expérience atterrante. C'est ce révérend qui a écrit cette lettre. The American Magazine m'a donc permis d'insérer ici ma réponse à Madame Douglas. Ma lettre était précédée d'une note éditoriale. Dans un numéro récent de The American Magazine, Madame Frank Douglas d'Arkansas racontait à quel point la mort de son fils à la bataille avait ébranlé sa foi dans le pouvoir de la prière. Depuis la publication de sa lettre, plus de 3000 lecteurs à travers le pays ont écrit pour offrir leurs conseils et leur réconfort. Parmi toutes ces lettres, Madame Douglas en a sélectionné plusieurs qu'elle a trouvées spécialement utiles. Parmi celles-ci se trouve la lettre suivante d'un docteur. La lettre du docteur est publiée ici dans l'espoir qu'elle sera aussi utile à d'autres. Voici ce que ce docteur chrétien écrit. Chère Madame Douglas, si nous pouvions toujours garder vivants les êtres qui nous sont chers par l'exercice de la foi, il n'y aurait jamais de mort. Le moment doit venir où Dieu, après les avoir épargnés à plusieurs reprises, c'est mon cas, ne peut les épargner plus longtemps. Tous les hommes doivent mourir, certains dans la jeunesse, d'autres à un âge avancé. Certains meurent en temps de paix, à la suite d'un accident ou d'une maladie. D'autres meurent en temps de guerre. Je crois que l'on doit assumer que lorsque un homme meurt, l'œuvre de sa vie a été accomplie sur cette terre. Dans la pensée de Dieu, les années comme nous les mesurons sont que des secondes pour lui. Il ne fait aucune différence si un homme vit 20 ans, 40 ans ou 80 ans. Lorsqu'il a terminé son œuvre ici, il est promu à ce royaume plus grand de l'esprit que nous appelons le ciel. Vraiment, c'est un grand honneur que certains hommes puissent terminer l'œuvre de leur vie si tôt, alors que d'autres, aux yeux de Dieu, ne s'en tirent apparemment pas si bien et qu'ils doivent demeurer ici plus longtemps jusqu'à ce qu'ils mènent leur œuvre à bien. Et je reconnais que c'est mon cas. C'est un fait que nous, pauvres êtres humains, pensons si profondément en termes terrestres. Dieu n'accorde pas la même valeur que nous à l'existence terrestre. Il a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais plutôt craignez ceux qui peuvent détruire l'âme. » Bien sûr, c'est une bien maigre consolation pour celui qui cherche et qui soupire après un visage bien aimé. Mais si nous pensons spirituellement plutôt que d'une façon terrestre, nous n'accorderons pas autant d'importance à la vie du corps. Vous avez été une femme de foi, et vous dites que votre fils avait la foi. Cela signifiait que vous étiez tous les deux dans la volonté de Dieu. Vous étiez en harmonie avec sa volonté et avec son dessein. Je croirais alors que vous devriez assumer, et je suis certain que vous le pouvez, que votre fils étant abandonné à Dieu, sa volonté a été faite. Dieu, dans ses réponses aux prières, dit souvent « oui ». Parfois, il dit « attendez encore un peu ». Souvent, il dit « non ». Quel que soit le cas, sa volonté est faite, elle est juste. Et la foi véritable consiste à croire que ce qui est arrivé pour le meilleur. Si l'on n'adopte pas cette attitude, on oppose ses désirs personnels à la sagesse de Dieu. Souvent, nous confondons simplement avec la foi ce que nous désirons. J'aimerais vous demander, avec la bonté la plus profonde possible, pensez-vous réellement que vous avez perdu votre fils? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Récemment, j'étais assis chez deux bons amis dont le fils était mort en France. Deux photographies se trouvaient sur le mur de leur bibliothèque. L'une était celle du père en uniforme de la Première Guerre mondiale. L'autre était celle du fils de 20 ans, dans l'uniforme de cette dernière guerre. Dans l'intimité de l'amitié, ils parlaient tendrement de leur fils. Leur fils sifflait toujours, dit la maman. Loin, dans la rue, lorsqu'il revenait de l'école, quand il était petit gars, vous pouviez l'entendre siffler, et en grandissant, il sifflait aussi. Soudain, la mère dit tristement, « Mais nous ne l'entendrons plus jamais siffler. » Mais, aussi étrange que cela paraisse, à ce moment-là, j'ai eu un sentiment vague, quoique réel, que j'avais entendu le garçon siffler pendant que nous parlions. Cela peut être dû à l'atmosphère dans laquelle nous étions, même si je préfère penser différemment. Mais comme elle disait, nous ne l'entendrons plus jamais siffler. Je me surpris à dire, vous trompez à ce propos-là. J'hésitais et j'avais le sentiment qu'à cette minute même, il sifflait dans cette pièce. Pardon. Le père, qui était un homme très costaud et beaucoup plus émotif également, il a dit aussi, oui, aussi étrange que vous dites cela, j'ai eu moi aussi exactement la même impression. Nous étions assis là, tous ensemble, silencieux et très craintifs. Et la grande pensée d'Ingersoll m'avait traversé à ce moment-là l'esprit. Car dans la nuit de la mort, l'espoir voit luire une étoile. Et l'amour, à l'écoute, elle peut entendre le bruissement d'une aile. Croyons que Dieu vous donnera la paix et la compréhension. Je suis cordialement vôtre, et le docteur signa seulement deux lettres majuscules. Chers amis, je ne sais pas s'il y a encore de la place maintenant pour une petite prière à la fin de notre étude. On essayera quelque chose d'inédit. Par exemple, Certains d'entre vous se souviennent d'un chant merveilleux. Nous pouvons prendre la première strophe sous forme de prière. Seigneur, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Et chers amis, merci. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à demain matin.